France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Les carnets dans l'Aveyron. Bah oui, c'est pas le fait de suivre l'actualité, mais c'était prévu de longue date. Chez Pierre Soulages, entre autres, l'artiste qui fêtera son centenaire en décembre prochain, voit ses sources d'inspiration honorées par une exposition très originale au musée Fenaille de Rodez. Donc, ce musée d'histoire et d'archéologie provoqua un choc chez le plasticien lors de ses premières visites, ce qui lui fit dire plus tard « La peinture traditionnelle ne m'intéressait pas, je préférais la peinture des cavernes ». Fin de citation. Une exposition autour d'un musée imaginaire de Pierre Soulages s'y tient jusqu'au 10 novembre. Il y a un lien avec ce musée Fenaille de Rodez à nos pages d'émission franceinter.fr et sur notre page Facebook. Ensuite, ce sera au musée du Louvre d'ailleurs de consacrer une exposition rétrospective de l'œuvre de Pierre Soulages à partir du 11 décembre. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le premier numéro d'une nouvelle série de chroniques solidaires avec Jean-Louis Laville, titulaire de la chaire d'économie solidaire au Conservatoire national des arts et métiers. Mais tout d'abord, dans l'Aveyron, nous allons à la pêche aux bonnes nouvelles auprès d'une SCOP culturelle devenue presque incontournable, Cirventes.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Nathalie Marty, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Nathalie, grâce à vous, nous revenons vers une coopérative qui n'existait pas sous forme coopérative, elle était sous forme associative. À l'époque, période de sa naissance, en 97, à Aurillac, c'est Cirventes. Cirventes, c'était une agence artistique de développement au profit des savoir-faire, des artistes, au profit des projets de production, d'événements, et en particulier d'événements musicaux. Et Cirventes, donc, a pris une nouvelle forme en s'installant à Sévrac d'Aveyron, la forme de SCOP. Que s'est-il passé pour que vous preniez cette dimension-là?
Donc c'était en 2009, l'ensemble des artistes qui travaillaient avec Cirventes jusque-là se sont posé la question de leur forme juridique et de leur organisation et ont fait le choix collectivement de s'orienter plus sous forme de société coopérative de production, à savoir que du coup chaque salarié est co-responsable et fait partie intégrante en fait du projet et des choix, des stratégies de développement de la structure. Et donc ça s'est passé en 2009, et bien il y a plus de 10 ans maintenant.
Donc chaque membre est salarié et en même temps dans la SCOP a loisir de répondre aux projets, aux programmes qui peuvent lui venir de l'extérieur ou aux appels venant de l'extérieur.
En fait, chaque projet artistique qu'on accompagne, donc Cirventes c'est une agence de production, produit, on accompagne des projets de musique comme la Malcoiffée, du Bartas ou des Balletti, et également des artistes conteurs. Monique Bure et Durand, qui ont chacun ont la spécificité de travailler et de créer un lien avec la langue ou la culture occitane. Et donc, tous ces projets que collectivement, on a fait le choix d'accompagner, tous ces artistes, tous ces gens qui sont salariés, ils sont aussi associés à la coopérative. C'est-à-dire que lorsqu'on a des assemblées générales dans lesquelles on décide du sens de notre démarche et des stratégies de développement qu'on va avoir, et bien chaque associé a une voix et décide de l'avenir de notre structure. Donc moi, je suis missionnée en tant que gérante, mais en assemblée générale, j'ai une voix au même titre que mes collègues chanteuses de la Malcoiffée ou les conteurs, quoi, par exemple.
Est-ce que le statut, lorsqu'on est artiste, intermittent du spectacle, le statut SCOP, peut éviter les accidents de parcours comme on le connaît dans les métiers du spectacle?
Alors, je ne sais pas si le statut en particulier évite les accidents de parcours, mais en tout cas, ce qui permet, en tout, selon nous, les démarches d'économie sociale et solidaire, c'est qu'on travaille dans un même sens, on met en commun nos moyens, on travaille de manière solidaire, et c'est en ça qu'on essaye d'être le plus vertueux possible, et du coup de pérenniser les carrières et d'accompagner au mieux les artistes.
Et Cirventes est le promoteur de la culture occitane.
Alors, nous ne sommes pas les seuls.
d'autres, oui.
Déjà, nous ne sommes pas les seuls, mais de manière collective, on défend une démarche de diversité, de mixité culturelle. Quand je parlais d'humain au centre des projets, c'est aussi les hommes en tant qu'individus et les hommes avec leur identité et leur culture, et de rejoindre aussi tout ce dont on parle aujourd'hui, les droits culturels, etc., etc. Et pour nous, c'est prendre à part entière chaque individu, chaque histoire, chaque territoire et lui redonner une place, enfin prendre la parole aussi pour défendre et proposer et continuer à travailler les identités et les choix artistiques.
En sachant que les artistes jouent un peu partout en France et en Europe, et on se dit, Cervantes, pour eux, c'est un peu un label de qualité.
Ben, c'est leur label, déjà.
C'est leur label,
oui. Ils appartiennent à tous, oui. Et nous, forcément, on travaille ensemble pour que les groupes aient une visibilité nationalement ou au niveau européen. On produit les spectacles, on produit également les disques. On travaille avec eux sur la visibilité des créations de chacun.
Et Nathalie, donc Dubarta sort son 6e album le 18 octobre prochain, Rufa, et vous, vous préparez des résidences d'artistes, mais de conteurs.
C'est ça. Dubarta, c'est le 6e album, exactement. Il y aura une tournée en France et une date au studio L'Ermitage le 5 novembre. Et localement, donc on est à Sévérac depuis 2 ans, on fait des propositions au territoire, aux collectivités, et on a fait le choix au sein de la SCOP de travailler notre lien avec le territoire autour de la discipline artistique qui est le conte. Et on est en train de préparer là des résidences autour du conte. Il y en a une qui vient de se passer à Saint-Martin-de-Laine, une petite commune des Cosses à l'Aubrac, avec Séverine Sarias. Et il y en aura 2 début 2020.
Très bien. Cervantes.com pour l'adresse. Merci Nathalie, puis à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
Sadia est à l'origine d'une initiative aveyronnaise originale, à savoir le premier centre équestre itinérant affilié à la Fédération française d'équitation. Il s'appelle Carvane, j'espère bien prononcer avec un K, il y a même 2 K. Sadia se déplace avec son camion et ses chevaux et poneys chez les particuliers dans les communes ou à l'occasion d'événements locaux. Elle propose également des séances d'équi-ostéo avec 2 ostéopathes. L'objectif est de mettre en évidence et de corriger un blocage physique par la pratique équestre et l'ostéopathie, selon la formule utilisée sur le site de Carvane, encore une méthode que je découvre. Par ailleurs, lorsque Sadia nous avait écrit l'année dernière, elle organisait une campagne de financement participatif afin d'acquérir un chapiteau. La campagne a été réussie. L'achat du chapiteau permet au centre de circuler toute l'année à l'abri des caprices du ciel. Le siège de Carvane est à Saint-Laurent-d'Olt et vous allez trouver, comme pour toutes les adresses, un lien à nos pages d'émission. Jean-Louis Laville, bonjour.
Bonjour.
Jean-Louis, bienvenue dans les carnets de campagne et de la ville, grâce à vous maintenant, ouais. Et des chroniques solidaires que nous ouvrons pour la première fois avec vous et que nous allons suivre régulièrement. Vous êtes professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, vous êtes titulaire d'une chaire d'économie sociale, vous êtes engagé et impliqué dans différents axes de recherche internationaux, vous êtes sociologue, vous êtes auteur de nombreux livres, en particulier sur les associations et l'économie sociale et solidaire. On vous donnera les références et vous les retrouverez sur Internet. Et pour cette première chronique, on va rappeler la réalité d'une d'économie plurielle. Parce qu'on parle d'une économie réelle, mais derrière cette intitulée, il y a plusieurs économies.
Oui, je crois que c'est l'un des grands problèmes auxquels on se heurte, hein, c'est que depuis quelques décennies, il y a un sentiment d'impuissance, hein, comme si l'économie, ça se décidait à Wall Street, dans des places boursières, bien, bien, bien loin de notre vie de citoyen ordinaire. Et c'est l'un des problèmes majeurs auxquels nous nous confrontons. Je crois qu'il n'y a là aucune fatalité. Ça a été des décisions qui ont été prises il y a quelque temps. On n'est pas condamné à ça à perpétuité. Et puis surtout, ça pose un problème grave. Parce que comme il n'y a pas de place pour tout le monde dans cette économie axée sur la compétitivité, axée sur le gain maximal, sur l'intérêt matériel, eh bien ça amène à ce que dans l'ombre se développe une économie qui est une économie mafieuse. Et on voit bien, par exemple, avec le trafic de drogue aujourd'hui, combien cette économie mafieuse progresse un peu dans toute la planète. Et c'est pour ça qu'il me semble que le manifeste, par exemple, qu'ont lancé les femmes des quartiers populaires de Marseille est important. Elles proposent, sur le modèle de la loi italienne, que les biens confisqués à la mafia soient affectés à des associations locales qui œuvrent pour le bien commun des quartiers. Et ça, ça me semble quelque chose de vraiment fondamental. Et c'est là où on voit qu'il n'y a pas qu'une économie mafieuse dans l'économie dont on ne parle pas. Il peut y avoir aussi une économie au service du bien commun.
Alors c'est une économie qui alimente des entreprises, des initiatives à utilité sociale, qui entrent dans le développement durable. Dites donc, on est en pleine actualité. Il y a urgence sur tous ces points aujourd'hui. Donc, honneur à l'économie sociale et solidaire. Pourtant, la place n'est pas encore assez grande.
La place n'est pas encore assez grande, c'est vrai, parce que on a beaucoup tablé sur le fait que l'économie, c'était le marché. Et je crois que là, il faut qu'on tienne compte de tout un courant d'économistes, ce qu'on appelle les substantivistes, dont la personne la plus connue, le porte-parole, est Karl Polanyi. C'est un économiste d'origine hongroise. Souvent, maintenant, on le désigne comme celui qui sera peut-être le Marx du 21e siècle. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces économistes, qui ont observé plusieurs sociétés, plusieurs périodes historiques? Ils nous ont dit, il n'y a pas que le marché comme principe économique. Il y a d'autres principes économiques. C'est comme ça que l'on peut dire qu'il y a en fait dans la réalité une économie plurielle. Il y a la redistribution, parce que il y a tout un ensemble de ressources que les pouvoirs publics collectent pour ensuite les redistribuer selon des normes qu'ils fixent. Rappelons que les investissements publics, ça fait à peu près 15% du PIB au niveau européen, que on l'a vu en 2008, l'état social dans les pays européens plus qu'ailleurs a été un amortisseur à la crise. Donc cette économie basée sur la redistribution, qui a à peu près le même poids que l'économie de marché aujourd'hui, c'est pas une économie qui coûte, c'est pas une économie qui soit parasitaire, c'est au contraire une économie qui permet d'équilibrer entre l'économique et le social. Et puis, il y a aussi toute cette partie de l'économie qui, alors là, n'est souvent pas du tout identifiée. Celle qui est régie par le principe que ces économistes ont appelé le partage domestique. Cette activité que l'on a qualifiée depuis trop longtemps d'improductive. Or, ces activités autour de la garde des jeunes enfants, par exemple, autour de l'aide aux personnes âgées, l'économie de marché ne pourrait pas fonctionner si elle n'existait pas. Et souvent, ça se fait effectivement au détriment des femmes auxquelles on laisse la responsabilité de ces activités parce qu'elles sont faites, là encore, dans l'ombre. C'est pour ça qu'on peut passer et mobiliser un troisième principe, qui est le principe de réciprocité, qui permet de faire que ces activités soient organisées par la collectivité. C'est un peu le principe qu'on avait vu dans l'émission avec la petite cantine, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la sphère de la maison, on n'est plus dans la sphère domestique, on est avec les voisins, on est avec d'autres pour organiser des activités. Il y a tout un mouvement en Amérique du Sud de cuisine collective qui est très important et qui permet aux femmes de sortir de chez elles, justement. Et
Jean-Louis, ça repose sur un modèle ancestral qui est celui de l'entraide.
Absolument, mais ce modèle ancestral, il faut qu'on le réactive selon des modalités qui soient adaptées à la société d'aujourd'hui. Je reprends l'exemple du collectif des femmes de Marseille qui ont ouvert là récemment, le 27 septembre, un Fab Lab, un tiers-lieu qui va servir à finalement plusieurs générations, les 9-15 ans qui vont pouvoir s'initier aux outils numériques, les 16-25, comme elles disent, pas les décrocheurs, mais les décrochés du système scolaire, puissent aussi se familiariser avec ces techniques numériques, et puis ça sera ouvert à des femmes adultes, comme à des hommes d'ailleurs. Ils pourront enrichir leur savoir-faire, par exemple en couture, en ayant accès à des machines à commande numérique.
C'était la chronique solidaire de Jean-Louis Lavigne. Merci Jean-Louis. Tiens, une bonne nouvelle, encore une. C'est le Café des Bonnes Nouvelles de Chambéry qui redémarre sa saison la semaine prochaine, mercredi 9 octobre à 19h. Rendez-vous à la MJC Faubourg Montmélian de Chambéry. On s'est promis à chaque fois d'annoncer ces rendez-vous réguliers du Café Bonnes Nouvelles. Il y a d'autres cafés Bonnes Nouvelles ailleurs en France. N'hésitez pas à nous en informer. Au programme Fin du Monde, se refonder pour ne pas s'effondrer. Bon, les clignotants de la planète sont au rouge. Osons regarder cet état des lieux et croyons qu'une autre fin du monde est possible, selon Pablo Servigne. C'est le rendez-vous mercredi prochain à 19h à la MJC du Café, pour le Café des Bonnes Nouvelles de Chambéry. Avant de nous séparer, je vous rappelle, la semaine prochaine nous serons dans le Tarn-et-Garonne, la Somme, l'Oise, le Val d'Oise ensuite, et puis je vous annonce les nouveaux venus Bas-Rhin, Meurthe-et-Moselle et Moselle.